une de nos correspondantes depuis New York. Good evening, Émilie Musset. 100 jours, le 30 avril marquera donc les 100 jours de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Lors d'un meeting tenu près de Détroit, dans le Michigan, il a salué les 100 jours les plus réussis de l'histoire américaine et a promis un nouvel âge d'or du pays. Quelle est donc l'ambiance aux États-Unis pour ces 100 jours, Émilie ?
Alors, l'ambiance est aujourd'hui très divisée dans le pays et ce 100e jour survient dans un contexte marqué en fait par une série de mauvaises nouvelles sur les plans politiques et économiques pour le président. La première mauvaise nouvelle, c'est que sa popularité est en chute libre avec, selon les sondages, entre 45% d'opinion favorable, soit une baisse de 7 points en seulement 2 mois. C'est inédit pour un président américain, mais c'est pour le clin d'œil exactement la cote de popularité qu'il avait en 2016. Sur les marchés financiers, la semaine a encore une fois été très mouvementée avec un chiffre noir publié mercredi. C'est celui de la croissance américaine en recul de 0,3%. Le président Trump a attribué cette contre-performance à son prédécesseur Joe Biden, alors même que la croissance au dernier trimestre 2024 atteignait 2,4%. Alors pourquoi ce recul ? Il est en grande partie lié à l'augmentation des importations, les entreprises ayant anticipé l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane.
On va reparler aussi, Émilie, de ces fameux droits de douane. Aujourd'hui marque un tournant pour les importations de produits fabriqués en Chine avec la fin d'une exemption baptisée de minimis qui permettrait aux petits colis de moins de $800 entrant sur le sol américain d'échapper aux droits de douane, Émilie.
Oui, alors, cette exemption des droits de douane a été massivement utilisée par des géants chinois tels que Shein ou Temu qui pouvaient atteindre directement le consommateur en envoyant directement les colis sans payer de droits de douane. La fin de ce régime spécial pour les produits importés de Chine se traduit par des droits d'importation extrêmement lourds. On parle de 120 à 145% de droits de douane selon le transporteur utilisé. Les répercussions sont considérables pour les géants chinois, mais aussi pour les entreprises et les artisans américains. Les créateurs de vêtements, les vendeurs sur les plateformes qui importent souvent de la matière première ou des produits venus de Chine et qui les revendent sur le sol américain. Les gros importateurs, quant à eux, ont déjà constitué leur stock et on assiste depuis le début de l'année à un fort déclin des importations venues de Chine. On estime qu'environ 50% du trafic a été perdu par rapport à l'année dernière. Pour les consommateurs, on s'attend à des hausses de prix et probablement à des pénuries sur certains produits. Le président Trump a ainsi résumé la situation. Les enfants auront peut-être 2 poupées au lieu de 30 et elles coûteront quelques dollars de plus.
Hier, Émilie, nous avons assisté au premier grand changement de l'administration Trump avec le départ précipité de Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale qui devrait donc devenir ambassadeur américain auprès de l'ONU. Une tombée en disgrâce pour ce conseiller issu du parti républicain traditionnel, remplacé donc provisoirement par Marco Rubio, le secrétaire d'État. Que dit-on de ce départ depuis les États-Unis ?
Alors, ce départ n'est pas une surprise. Il était attendu depuis donc ce qu'on a appelé maintenant le Signal Gate. C'est cette fuite sur la messagerie Signal d'informations classées, d'informations secret défense. Donc, entre le 11 et le 15 mars dernier, des hauts gradés, donc dans un groupe Signal de hauts gradés de l'administration américaine et de la CIA, un rédacteur en chef de la revue Atlantique a été par erreur ajouté au groupe et il a donc suivi toutes les tractations et obtenu des informations classées secret défense, notamment l'heure exacte des attaques contre les Houthis au Yémen. Le rédacteur en chef de la revue Atlantique avait donc décidé de publier ces échanges malgré la demande de la Maison-Blanche de ne pas le faire. Donc le limogeage de Mike Waltz est, selon les analystes, à mettre en regard avec cette affaire, bien sûr, mais aussi et surtout avec sa faible popularité dans les milieux MAGA. Donc Mike Waltz, c'est un républicain traditionnel, on dit que c'est un des derniers faucons républicains, et il n'avait pas les faveurs de Donald Trump, contrairement à d'autres, comme le secrétaire d'État à la Défense, Pete Hegseth, qui était lui aussi dans ce groupe et qui n'a absolument pas été inquiété. Mike Waltz avait des positions plus clivantes, il défendait par exemple des sanctions contre la Russie ou une position plus dure contre l'Iran. Et c'est cette absence d'allégeance à Donald Trump ou d'allégeance totale qui a pu être sanctionnée aujourd'hui. Il rejoint l'ONU, qui est une institution dont on sait le mépris de Donald Trump, dont on sait le mépris qu'a Donald Trump pour cette institution.
Merci Émilie Musset depuis les États-Unis pour Bonsoir l'Amérique. Et puis Mike Waltz, on va en parler dans quelques instants. Mais avant. En musique et tout en déhanché comme à son habitude, Donald Trump a fêté les 100 premiers jours de son mandat devant une foule de partisans en délire.
And we're here Nous sommes ici ce soir, au cœur de notre nation, pour célébrer les 100 premiers jours les plus réussis de toute l'histoire de notre pays, selon beaucoup, beaucoup de gens.
Un discours aux airs de campagne dans lequel il tacle sans scrupule la justice américaine. Ces derniers mois, elle a fait rempart à certaines de ses mesures qui violent la constitution du pays.
Nous ne pouvons pas non plus permettre à une poignée de juges communistes radicaux gauchistes d'entraver l'application de nos lois et d'assumer les fonctions qui appartiennent exclusivement au président des États-Unis. Les juges tentent de retirer au président le pouvoir qui lui a été conféré pour assurer la sécurité de notre pays, et ce n'est pas une bonne chose.
Une rhétorique agressive devenue sa signature. Donald Trump est aussi revenu sur la situation économique des États-Unis. Il avait promis 1000 milliards de dollars d'économie. Ce sera pour l'année prochaine.
Et cela sera fait au cours du prochain exercice budgétaire. Nous allons réaliser quelque chose que vous n'imaginez même pas. Nous allons mettre fin à l'inflation, réduire les prix. Nous avons déjà mis fin à l'inflation, augmenter les salaires et vous offrir la meilleure économie de l'histoire mondiale.
Au même moment, à l'extérieur de la salle, une foule de manifestants brandissent des panneaux anti-Trump. Le président américain ne semble pas faire l'unanimité dans le pays. En témoignent les résultats des derniers sondages. Presque tous rapportent une cote de popularité en chute libre. La pire pour un président américain depuis la Seconde Guerre mondiale.
Simulation MAGA dans laquelle il a plongé les États-Unis maintenant depuis quelques mois. C'est un univers parallèle où tout fonctionne, où la recette du Trumpisme... A des résultats, en tout cas, qui font aujourd'hui rêver sa base, ses supporters, qui ont tous avalé la pilule dorée, hein, donc c'est l'équivalent de la red pill, mais pour les Trumpistes, effectivement. Non, ce qui est intéressant, c'est finalement, on a beaucoup parlé de présidence performative, c'est-à-dire que la théorie, en fait, des actes du langage performatif, c'est l'idée qu'on donne l'impression d'agir directement sur le réel en parlant, en annonçant avec des effets d'annonce à la chaîne. Et puis ce qu'on voit avec effectivement cette volonté toujours d'apparaître comme le gagnant, comme le meilleur, c'est aussi une forme de narcissisme performatif. C'est-à-dire qu'il va utiliser des éléments de langage comme greatest, tremendous, best, donc le meilleur, le plus grand, pour se décrire et pour qualifier ses actions au quotidien. Et donc cette mise en parole, ce branding verbal, il évoque directement un style qui, moi, me fait penser un peu à cette idéologie des youpies, des années 80. Donc,
tout est beau.
Donc, non, en fait, non, c'est, vous savez, c'est les Young Urban Professionals.
Ah, d'accord.
Donc, pour ceux qui ont lu les romans de Bret Easton Ellis, ou qui ont vu, par exemple, American Psycho, c'est cette idée que finalement, on a besoin constamment de prouver qu'on est le meilleur. Et donc, la parole affirmative tient lieu de preuve. Et il y a les gagnants, il y a les perdants. Et dans sa communication, c'est vrai que Trump classe en permanence les individus en deux catégories. On a les gagnants d'un côté, on a les losers, les adversaires politiques, les médias de l'autre. Et donc, c'est ce mythe du winner à l'américaine qui a probablement aussi imprégné le Trump des années 80, le Trump homme d'affaires, qu'on a aussi retrouvé dans ces télé-réalités. Et donc, il faut absolument maintenir ce statut de gagnant, même si on va à l'encontre de la réalité. Peu importe la réalité.
C'est
on est dans la prospérité.
Première présidence Trump et de celle que l'on est en train de voir aujourd'hui. Hein. On se rappelle tous que cela avait commencé avec son célèbre discours d'investissement où il y aurait eu plus de personnes qu'Obama. Et puis on a eu un drone qui a fait la photo du dessus, on a vu que ce n'était pas vrai. Mais il n'empêche, chaque fois qu'il y a une contradiction, ce sont évidemment les médias qui se trompent, donc ce sont les faits en quelque sorte qui se trompent, et comme l'a bien souligné Nicolas, ben, il y a un discours qui fonctionne systématiquement, même si il va à l'encontre des faits. Et là, c'est tout de même quelque chose d'assez impressionnant, parce que ici, il y a 100 jours, donc il se retourne sur ces 100 jours et on pouvait penser qu'il allait peut-être donner un nouveau souffle à son mandat.
Cas, hein.
Ce n'est pas le cas. Mmh. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le Wall Street Journal a souligné, qu'il est tout de même plutôt un journal qu'on considérerait plutôt à droite, droite. Hein.
Ah, pour vous, c'est à droite, le Wall Street Journal?
Bah, en tout de même.
Journal financier, vous voulez dire, c'est pas un journal de gauchiste, tel qu'on pourrait le dire.
Voilà, mais ce n'est pas... donc, c'est un journal qui a toujours été assez modéré et qui a fait la comparaison récemment en se disant, ben, vous savez, souvent, on prend les 100 premiers jours d'un président et puis on fait le bilan, et qui rappelait le début de la présidence de François Mitterrand en indiquant, ben, après avoir tenu un discours très à gauche, ben, finalement, il a un petit peu réorienté les faits. Et en soulignant que ce qui pourrait peut-être arriver de mieux, ce serait que Donald Trump fasse en quelque sorte, adopte la même stratégie. Mais on voit que ce n'est pas du tout le cas.
Vous allez voir, parce que j'ai une séquence.
Do. And Mr. President, it's been an honor to be part of it for the past 100 days.
Mr. President, the last 4 years, the world experienced a total lack of zero leadership under Biden. And then we had 100 days of your leadership with respect, with strength.
President, your first 100 days has far exceeded that of any other presidency in this country, ever. Ever. Never seen anything like it. Thank you.
President Trump, in your first term, when I had a chance to work with you as governor, you were courageous. The thing that's empowering this amazing group of people around this table, and you've probably assembled the greatest cabinet ever, is that this time you're not just courageous, you're actually fearless.
Nicolas Bayard, ils sont terrifiés ou justement ils ne peuvent juste pas aller à l'encontre de Donald Trump, et à nouveau on le répète, c'est vraiment l'allégeance, la fidélité qui va déterminer qui va rester ou pas dans son administration.
Ah, je pense que c'est un culte.
C'est vraiment
fait,
ça.
En fait, il y a un chercheur, on a beaucoup parlé ces derniers mois, un chercheur de Hong Kong qui s'appelle Jan Wei Xun, qui parlait d'hypnocratie. Donc en fait, tout le monde est hypnotisé en quelque sorte, est dans cette simulation et partage cette rhétorique triomphaliste. Effectivement, on a entendu parler Trump de la baisse des prix. Enfin, je reviens des États-Unis, j'ai pas eu l'impression que les prix ont fondamentalement baissé, mais c'est cette idée aussi que, et ça c'est quand même un élément important, c'est l'effet feel good de cette plateforme MAGA, où aujourd'hui les partisans, mais aussi les, on le voit, les plus fidèles alliés de Donald Trump, sont convaincus que Trump montre qu'il existe une alternative à la fatalité des Bidenomics, à la fatalité économique et la fatalité sociale, et donc Trump aurait prouvé durant 100 jours qu'il est en capacité d'agir sur le réel. Encore une fois, même de s'opposer à la réalité, mais d'agir sur le réel. Et cette forme d'enthousiasme qui semble ici partagé, je pense qu'il n'est pas encore tombé, malgré toute une série, je dirais, d'échecs, même si on... difficile après 100 jours de parler véritablement d'échecs. Mais par contre, il y a un danger. Il y a un danger, c'est l'écart justement entre la performance ressentie, notamment chez ses supporters, et la réalité. Parce que toutes ces simulations dont je parlais tout à l'heure, elles requièrent une suspension de l'incrédulité. On doit accepter, comme quand on va au cinéma, qu'on est face à une fiction, de dire « Ok, j'y crois. Je sais que c'est faux,
c'est un film.
Mais j'y crois. » Mais c'est nécessaire pour demeurer dans cette simulation, d'où cette notion d'hypnocratie. À partir du moment où dans leur chair et dans leur portefeuille, les Américains vont ressentir des effets à long terme, puisqu'on reporte déjà l'année prochaine les véritables succès qui ont été annoncés
il y a quelques temps,
je pense que là, on risque d'y avoir une brèche et que ce front trumpiste risque quelque peu de craqueler.
Oui, j'aimerais quand même...